Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les provocations et les ingérences ont été trop nombreuses. La France rappelle donc son ambassadeur en Italie. Crise diplomatique au plus haut. La ministre des Affaires étrangères française, vous l'entendrez, s'en est expliquée quand le Rassemblement national dit comprendre l'attitude de Rome face à Emmanuel Macron. Des vivres et des médicaments arrivent à la frontière vénézuélienne. L'aide humanitaire américaine et canadienne s'organise et ce, malgré le refus du président élu Nicolas Maduro. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis dans cette édition, nous analyserons la fabrication du vaccin contre la grippe. Plus d'un millier de personnes est décédée à cause de l'épidémie cet hiver en France. Une crise diplomatique sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que le Quai d'Orsay dit face à la tension qui monte entre la France et l'Italie. Paris a rappelé son ambassadeur hier après une série d'attaques et de provocations de la part de l'Italie. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, justifie ce rappel.
Il n'est pas fréquent de rappeler un ambassadeur entre pays membres de l'Union européenne. Mais le comportement et les propos qui ont été tenus ne sont pas fréquents non plus. Nous n'avons pas les mêmes choix politiques que la Ligue de Matteo Salvini ou que le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, mais que chacun fasse prévaloir la préoccupation qui consiste à s'occuper des affaires de son pays, du bien-être de sa population et de faire en sorte d'avoir des bonnes relations avec ses voisins.
La France estime en fait que la rencontre du vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio, aussi chef de file du mouvement populiste des 5 étoiles, que sa rencontre avec des gilets jaunes français a été une provocation de plus, une provocation de trop. Ingérence inadmissible, dit Paris. Dans l'opposition en France, cependant, quelques voix s'élèvent pour soutenir la position italienne. C'est le cas de Thierry Mariani, candidat Rassemblement National aux élections européennes.
Je me permets quand même de rappeler qu'à de nombreuses reprises, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots sur le gouvernement italien et à force, c'est la politique de l'arroseur arrosé. Dès juin 2018, Macron dénonçait dans un conseil des ministres, je cite, « le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien ». Ben vous savez, quand vous chatouillez un peu trop vos voisins, un jour ils ont envie de vous chatouiller. L'arrogance de notre président et sa suffisance qu'il a sur la scène nationale, il a aussi sur la scène internationale.
Voilà pour cette crise franco-italienne qui en tout cas complique un peu plus les ambitions européennes d'Emmanuel Macron. Ambitions déjà contrariées par les déboires politiques de la chancelière allemande Angela Merkel et par le Brexit. Et côté politique intérieure, le gouvernement français doit aussi répondre à l'affaire Benalla en ce moment. La chef du groupe de sécurité de Matignon a démissionné hier. Marie-Élodie Poitou dit ne pas vouloir faire de tort au Premier ministre. Elle a été entendue dans le cadre de l'enquête sur les enregistrements diffusés par Mediapart, mais elle dément avoir organisé et enregistré la rencontre entre Alexandre Benalla et Vincent Crase pendant leur mise en examen en juillet dernier. Le parquet financier a par ailleurs ouvert une enquête sur un contrat signé entre le compagnon de cette même Marie-Élodie Poitou, un contrat avec lui, Alexandre Benalla, et un oligarque russe. Autre affaire qui se complique pour l'exécutif, celle de Carlos Ghosn, désormais ancien patron de Renault. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire dit vouloir la transparence totale. Depuis quelques jours en effet, la presse évoque une convention de mécénat entre Renault et le château de Versailles. Une partie de cette convention aurait bénéficié personnellement à Carlos Ghosn pour l'organisation de son mariage. Par ailleurs, Bercy dément avoir évoqué une baisse des 43% de participation de Renault chez Nissan. Cette participation ne sera pas réduite, répond Paris aux rumeurs japonaises. Des camions d'aide humanitaire venus principalement des États-Unis et du Canada commencent à stationner aux frontières du Venezuela ce matin. Cette aide humanitaire arrive via le Brésil et la Colombie, mais son entrée sur le sol vénézuélien fait toujours l'objet de vives tensions politiques. Le président en poste, Nicolas Maduro, refuse cette distribution de vivres et de médicaments. Son rival, Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une partie de la communauté internationale, lui, au contraire, est favorable à l'arrivée de cette aide. Il en a été question hier lors d'une réunion internationale organisée en Uruguay. Les pays ont appelé à une élection présidentielle libre, Nadine Epstein.
Des négociations ont été engagées pour établir un plan pour le Venezuela baptisé « Mécanisme de Montevideo » à l'initiative du Mexique et de l'Uruguay, deux pays qui n'ont pas reconnu le président par intérim. Une dizaine de pays européens et latinos planchent sur les moyens d'amener le pouvoir vénézuélien et l'opposition à une sortie de crise, double crise politique et humanitaire. Les deux volets sont non seulement dépendants, mais divisent la communauté internationale. Les deux premiers pays à vouloir le remplacement de Maduro, les États-Unis et le Canada sont aussi les principaux donateurs d'aide. Washington a promis 20 millions d'aide, Ottawa 50 millions. Vient ensuite l'Union européenne, 7 millions et demi, bien que plusieurs pays de l'UE ne se soient pas rangés du côté de l'opposition. Mais cette aide humanitaire qui commence à être acheminée dans les pays frontaliers, Colombie et Brésil, a besoin de l'autorisation des autorités de Caracas pour entrer au Venezuela. Or Maduro, qui craint une invasion militaire pour le renverser, juge cette aide humanitaire comme le premier acte. Il a donc envoyé l'armée pour bloquer toute entrée. À l'inverse, Juan Guaido, qui a annoncé qu'entre 250 et 300 000 Vénézuéliens risquaient de mourir, presse la communauté internationale d'intervenir et de convaincre les militaires de laisser passer les vivres et les médicaments. L'ONU et ses agences, elles, refusent d'entrer dans les divisions politiques et elles déclarent être prêtes à secourir dès que Caracas aura donné l'autorisation.
C'est une nouvelle information dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre dernier. Le prince saoudien Mohamed Ben Salman l'aurait menacé en 2017. Selon la presse américaine, en tout cas, il se serait dit prêt à utiliser une balle contre le journaliste s'il continuait à critiquer le régime. Une révélation dévoilée ce vendredi alors que Donald Trump doit désigner devant le Congrès américain les coupables de cet assassinat. Le président, l'ancien président Abdoulaye Wade est de retour au Sénégal, arrivé hier en pleine campagne pour la présidentielle. Âgé de 92 ans, il a été accueilli par les militants du PDS, le Parti démocratique sénégalais, et il a appelé au boycott de la présidentielle. Un scrutin, selon lui, verrouillé pour assurer la reconduction de son successeur. C'est un reportage sur place de William Delesseux.
Depuis sa voix. Pendant près d'une heure, Abdoulaye Wade improvise un discours en Wolof, la langue comprise par la majorité des Sénégalais. Une attaque en règle du président Macky Sall, traité de voyou par la foule. La plupart sont des fidèles du vieux, le surnom de l'ancien chef de l'État.
Ce qui nous manquait au PDS, c'est le leader. Donc il est là, il a donné un message fort. Ce message fort, c'est de dire un candidat qui se dit « Je vais aller aux élections dans ces conditions-là, tu es en train de se suicider. »
Tous les Sénégalais présents ne voient pas d'un bon œil son retour.
« Ils sont venus ici pour nous emmerder, on le connaît, c'est des cinémas ça. Ablaoua et des Naka reposés, c'est un vieux. Naka allait dormir. »
Un ancien président très en forme assure Amadou Sall, cadre du PDS.
« J'ai retrouvé le Ablaoua que j'ai connu en 1974. »
Toute l'opposition peut-elle être derrière Abdoulaye Wade dans le sens où il y a des candidats plutôt qui continuent leur campagne?
C'est des candidatures retenues. Je ne vous dis pas ce qu'ils font en coulisses. Ils sont tous d'accord avec Abdoulaye Wade pour qu'on mène un combat immédiat pour la transparence. Et que si l'élection doit se tenir, qu'elle se tienne dans la plus grande transparence. Pour ça, ils nous rejoignent.
Abdoulaye Wade va devoir maintenant discuter avec les candidats de l'opposition qui ont accepté les modalités du scrutin. Quatre candidats qui n'ont pas l'intention de cesser leur campagne.
William Delesseux depuis Dakar pour France Culture. Revenons en France pour évoquer l'épidémie de grippe en ce moment. La ministre de la Santé Agnès Buzyn évoque un pic de la maladie et des mauvais chiffres pour la mortalité. Santé publique France attribue déjà cet hiver près de 1100 décès à cette épidémie car l'efficacité vaccinale varie en fonction des virus. Il y a deux virus, le H1N1 avec en ce moment 59% d'efficacité vaccinale et le H3N2 face auquel l'efficacité n'est que de 19%. Ce n'est pas étonnant, Mathieu Laurent.
Le virus grippal mute tant et plus. Et l'équation se complique quand le virus H3N2, en force cette année, prend des formes bien éloignées de celles de la souche identifiée au mois de février en vue d'une commercialisation du vaccin à l'automne, comme le montrent les analyses en laboratoire auxquelles a participé Vincent Hénouf, responsable adjoint de l'un des centres nationaux de référence de l'Institut Pasteur.
Cette année particulièrement, on a affaire à plusieurs groupes de virus H1N2 et certains de ces groupes dont on a les données aujourd'hui, ne permettent pas justement d'avoir une efficacité vaccinale importante. Et donc le pari, entre guillemets, que l'on fait au mois de février peut être en partie moyen, même perdu, si le virus a énormément évolué durant ces 6 mois.
Deux virus à combattre simultanément, rien de renversant, relève Vincent Renard, professeur des universités et président du Collège national des généralistes enseignants, une instance qui depuis toujours recommande une vaccination ciblée.
Aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques disant qu'il faut vacciner tout le monde. À partir du moment où on n'est pas dans des populations à risque, c'est quand même affaire de choix éclairés entre le médecin et son patient. En revanche, pour les catégories qui sont identifiées plus à risque, alors là, il y a un vrai intérêt de santé publique.
Dernière donnée livrée par les autorités sanitaires, une surmortalité de 1100 décès dus à un syndrome infectieux des voies respiratoires, des décès attribuables à l'épidémie, mais ce ne sont là que des évaluations.
La France n'est plus coupée d'ouest en est aujourd'hui, mais du nord au sud, avec un temps humide au nord, plus lumineux au sud de la Loire. Ce matin, comptez 3 degrés à Lyon, 9 degrés à Paris, Bordeaux, Marseille, 10 sur la Corse.